السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب شح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité en ce vendredi soir de nous réunir pour célébrer le mariage entre deux personnes. On dirait même plus, deux mariages entre différentes personnes. Ce mariage, cette union, ce nikah a été décidé avant même que les futurs conjoints aient pris la décision ou l'entreprise de voir leur future conjointe pour une demande en mariage. Cette décision a déjà été prise par Allah subhanahu wa ta'ala avant même la naissance de ces personnes. Dans sa sagesse infinie, lorsqu'Allah ta'ala a écrit le taqdir, le destin de chaque personne, cette décision avait déjà été prise par la sagesse, par la hikmat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mes chers frères, le mariage est toujours vécu, est toujours perçu comme un moment de fête et de réjouissance. C'est le cas. On voit à travers le mariage l'union entre deux personnes qui s'aiment déjà ou alors deux personnes qui vont, Inch'Allah, s'aimer. À travers le mariage, il y a également l'union, l'entente, Inch'Allah, cordiale et future entre deux familles. À l'époque, chez les Arabes, on parlait de deux tribus. À notre époque, on parle de deux familles qui vont être liées d'une manière ou une autre par le biais du mariage de ces deux personnes. Et ce sera là un muhabbat durable et stable, Inch'Allah, qui va s'installer entre des grandes familles. Mais à notre époque, mes chers frères, il faut aller au-delà de cet aspect de joie et de cet aspect de festivité à travers le mariage. Il faut également voir à travers le nikah, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes qui se marient, comme c'est le cas ce soir, il faut voir là un signe de présence de iman. Lorsque des jeunes se marient, au-delà du côté festif, il faut se dire que deux jeunes qui se marient, c'est vraiment la preuve que dans le cœur de ces jeunes, que ce soit le garçon comme la fille, il y a l'amour d'Allah, il y a la crainte d'Allah, il y a la présence de la taqwa et la présence du iman, de la foi dans ses cœurs. Parce qu'à l'époque où nous vivons, dans la société où nous vivons au 21e siècle, la pratique du zina, l'adultère, la fornication, les relations, le concubinage, la vie hors du cadre du mariage, malheureusement, est devenu quelque chose de banal. Un tel point qu'on n'appelle même plus cela de l'adultère dans notre société, on appelle ça tout simplement le concubinage. C'est comme si que on ne le perçoit même plus comme étant quelque chose de mauvais sur le plan moral ou religieux. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous avait annoncé il y a 1500 années de cela, « Inna min ashrati sa'ati an yurfa'a al-ilmu wa yathbuta al-jahlu wa yushraba al-khamru wa yadhharu al-zina » Rabahu Abu Daoud. Le prophète salam avait dit qu'à la fin des temps, c'est-à-dire parmi les petits signes de Qiyama, viendra une époque où la science religieuse sera reprise, l'ignorance sera généralisée, les gens vont boire de l'alcool, du vin ou autre chose, comme si c'était quelque chose de normal et l'adultère deviendra quelque chose de commun. Alors donc, à cette époque où il est tellement facile de vivre avec une femme sans nikah et que nous voyons des jeunes, comme on vient de le dire, se marier, alors nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'après 1500 années, ce iman existe toujours dans le cœur des gens, dans toutes les générations. Ce n'est pas que chez nos tchatchas, nos anciens qui ont la foi, mais également chez des jeunes, parce que, dites-moi, quelle différence y a-t-il entre ce jeune homme qui va aller avec son épouse dimanche, avec un lien de mariage, et s'il était avec elle sans lien de mariage? Sur le papier, c'est la même chose. Mais pour Allah Azza wa Jal, c'est totalement différent. Il y en a un qui a eu recours au zina, à l'adultère qui est haram, et il y a l'autre qui a eu recours à la sunna, au nikah, qui fait partie de la moitié de la foi. Donc je vous dis, mes chers frères, c'est quelque chose d'énorme. Ce n'est pas quelque chose de commun. Il faut saluer ce genre d'entreprise, ce genre de ibadat. Alors donc, mes félicitations aux futurs mariés, d'accord, pour leur désir de se conformer à la charia et la mise en pratique de cette sunnat énorme qui est le nikah, qui va consister, inshallah, la moitié de la foi. Je ne dis pas la moitié de la foi qui les manque, parce que leur iman est déjà à un certain degré, inshallah, mais cela leur donnera encore plus de pulsion dans leur foi. Également, félicitations aux parents de ces futurs mariés pour le souci qu'ils se sont fait pour leurs enfants. Vous savez, et vous le savez certainement mieux que moi, lorsqu'on a des enfants, que ce soit des garçons ou des filles, lorsque vous élevez ces enfants depuis qu'ils sont bébés, quand ils seront un petit peu plus grands, là, de 10 ans, ils seront ensuite des adolescents, jeunes hommes, jeunes filles. L'objectif, c'est quoi? Moi, en tant que papa ou en tant que maman, mon but, c'est quoi? C'est que mon fils ou ma fille soit un jour heureux ou heureuse. Et une des recettes de la joie dans la vie d'une personne, c'est le nikah. Vous savez également que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé qu'un homme à qui Allah azza wa jalla a accordé deux filles et qui leur accorde une éducation correcte, alors il sera auprès de moi comme ses deux doigts de le paradis le jour de Qiyama. C'est merveilleux ça. Et en commentaire, les muhadithin ils disent qu'une des conditions pour que on peut dire que ce père a élevé correctement ses filles, c'est de leur avoir donné une éducation correcte jusqu'à ce que ses filles se marient et qu'elles vivent dans le droit chemin. À partir du moment où un papa a élevé sa fille, il a donné sa fille à un homme vertueux et qu'il vive dans le droit chemin, on peut attester, inshallah, que cet homme, que ce père a donné l'éducation qu'il fallait à sa fille et que par rapport à Allah Azza wa Jal, il a donné le droit, le haq à sa fille. Et on a cet espoir que s'il y en a deux, s'il a deux filles, il sera auprès du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alors mes chers frères, pour ne pas faire long parce qu'ils sont venus pour se marier avant tout, le mariage se repose sur deux piliers. Il y a l'amour dans le couple, l'entente et la pratique de la religion. Et s'il y a un des deux piliers qui vient à manquer, alors le couple ne sera pas un couple épanoui. Alors juste quelques mots pour parler de l'amour dans le couple. Vous savez, l'attirance entre un homme et une femme, ça fait partie de ce qu'on appelle al-fitra, l'innéité. Lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Zuyina linnasi, hubbu shahawati minan nisa », Allah nous fait bien comprendre que l'attirance entre l'homme et la femme, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Maintenant, la conception de l'amour, qui est celle véhiculée par l'Occident au XXIe siècle, dans le pays où nous vivons, c'est un amour qui est basé uniquement sur la contemplation de la beauté. J'aime parce que cette fille est belle. La fille sera amoureuse du garçon parce qu'il est beau. Alors malheureusement, cette conception de l'amour via laquelle nos jeunes, hein, ils s'engouffrent, hein, le terme n'est pas exagéré, cette conception de l'amour n'était pas celle de nos grands-parents. Vous pourrez demander à vos grands-pères, à vos grands-mères, est-ce que tu étais amoureux ou tu étais amoureuse de ton mari ou de ta femme, ils vous diront non. Avant, on se mariait entre familles, on était d'accord dans le but d'avoir des enfants pieux. On ne recherchait pas absolument la beauté physique. Également, ce n'est pas pour rien si notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit à travers un hadith très connu qu'on se marie avec une femme pour différentes raisons. Et parmi ces raisons, le prophète a cité la beauté. Mais en conclusion, le prophète a dit, choisis celle qui est pieuse et qui a un bon comportement. C'est-à-dire que la femme pieuse, elle aura plus de valeur pour vous. Elle vous garantira une vie de bonheur et un bonheur durable plutôt que de se marier avec une Miss Univers, une Miss Monde aux yeux bleus, verts ou quelle que soit la couleur, mais qui n'a pas de pratique de la religion dans sa vie. Il faut savoir que si nous nous basons uniquement sur la beauté physique, mais il faut savoir que la beauté physique, elle est éphémère. L'épouse, la femme avec laquelle on va se marier, si aujourd'hui elle a 20 ans, elle est très belle, dans 20 ans, elle ne sera peut-être plus aussi belle, à moins qu'elle ait un stock de produits Clarins ou d'autres produits de beauté. Mais quand elle aura 60 ans, il faudra des conteneurs pour qu'elle reste, pour qu'elle garde la même beauté que lorsqu'elle avait, quand elle avait 20 ans. Il faut bien comprendre, si j'aime ma femme uniquement parce qu'elle est belle, quand elle aura 60 ans, quand elle sera elle-même d'aliment ou d'aliment avec les cheveux blancs, d'accord? Alors, est-ce que cet amour sera toujours présent à la même intensité? C'est ça la grande question. C'est ça la différence qu'il y a dans la conception de l'amour dans l'Occident et ce que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué sur l'amour qu'il y a dans l'islam. Et cet amour dans un couple chez les musulmans ne se base pas que sur la contemplation physique. Il y a la mahabba et il y a également la mawadda. La mawadda implique la clémence, le respect pour le conjoint. Et mes chers frères, la consécration de l'amour qu'il y a dans un couple, c'est quoi? Ça, c'est merveilleux, ça. C'est lorsqu'un homme regarde sa femme et qu'il est satisfait. Lorsque moi, je regarde ma femme, que ce soit le premier jour du mariage, ou que ce soit au 15e, à la 15e année, ou à la 30e année, que ma femme ait déjà 70 ans, je regarde ma femme avec la même tendresse. Et lorsque je regarde ma femme, je ressens une satisfaction, un apaisement, un plaisir de mon cœur. Il n'y a rien de plus magnifique que cela. Ce hadith dans lequel Qasim dit « In nazara ilayha sarrathu » Lorsque le mari regarde sa femme, cela lui procure de la quiétude, de la joie. Rawahu Muslim. Et c'est quoi l'aboutissement de cet amour? Contrairement à ce que l'Occident essaie de nous enseigner à travers les romans Le Droz, à travers Secret Story, à travers One the Stress et autres séries qui n'ont ni queue ni tête, si ce n'est de véhiculer une image totalement erronée et exploitée de l'image de la femme, l'aboutissement du mariage, c'est quoi, mes chers frères? C'est lorsqu'après la mort, cet homme retrouve sa femme dans le paradis. Que, permettez-moi d'employer les noms, que Akhtar soit dans le Firdaus avec Fatima, que Ismaïl soit dans le Firdaus avec, j'ai oublié le prénom, excusez-moi, avec Aziza, Inch'Allah, avec sa future conjointe. C'est ça la consécration, mes chers frères. C'est lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyah » Dans le paradis, Inch'Allah, nous allons nous retrouver. Cette jamaat qui est ici présente, nous demandons à Allah que, Inch'Allah, dans le paradis, nous serons sous l'ombre de ces arbres du paradis et nous nous rappellerons des joies de ce dunya. Également, nous retrouverons nos parents qui sont décédés. Nous retrouverons nos enfants peut-être qui sont décédés. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et les familles seront réunies. Il n'y aura plus de haine, plus de jalousie dans les cœurs. Mais également, les couples seront réunis dans le paradis, mais à une condition. Waman salaha, ceux qui sont restés dans le droit chemin. Si moi, en tant que musulman, j'étais régulier dans ma pratique de la religion, c'est mon devoir de ramener ma femme également dans la pratique du Sirat al-Mustaqim pour qu'elle vive une vie heureuse et épanouie avec moi maintenant et que dans le paradis, elle soit avec moi. Et c'est ça la consécration du mariage, que les couples se retrouvent pour l'éternité dans le paradis. Vous regardez, là je sais, d'accord, vous voulez vous marier, mais on a quelques petits conseils à donner, c'est peut-être 5 ou 10 minutes, je prends 10 minutes de votre future vie de couple, mais peut-être que c'est quelques conseils qu'on essaiera de faire passer, c'est pas moi qui donne les conseils, c'est prix d'équitable, d'accord, alors peut-être que cela nous, vous sera, Inch'Allah, utile, et cela peut être utile également aux couples qui sont aux noces d'or, ou de diamant, ou de vermeil, ou de merveille, ou autre chose, ou à notre niveau. Alors mes chers frères, pour arriver à ce niveau, pour que les couples soient ensemble dans le paradis, et qu'il y ait un véritable amour. Vous savez, quand on fait un nikah, très souvent on entend dans les doigts, « Allahumma allif bayna zawjain, Allahumma allif bayna huma, kama allafta bayna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa Khadija, wa Aisha. » Lorsqu'on dit, « Oh Allah, mets de l'amour, de la compassion entre ces deux personnes, tout comme vous aviez mis de l'amour, de la compassion entre notre prophète alayhi salatu wassalam et son épouse Khadija, entre le prophète alayhi salatu wassalam et son épouse Aisha, etc. etc. » Pour qu'il y ait véritablement cet amour, il faut absolument qu'il y ait la mahabba, la mawadda, le respect de l'autre et la pratique de la religion. Alors quelques points, peut-être 3 points ou 4 points maximum, quelques recettes du bonheur. Il faut que dans la relation du couple, tout d'abord, entre les deux conjoints, il y ait un comportement valorisant. Que le mari valorise sa femme et que la femme valorise son mari. Valoriser ne veut pas dire que respecter. Le respect, c'est la première étape. Le fait de valoriser son prochain, mais c'est également de considérer son prochain, de reconnaître les qualités de son prochain. Et dans une relation de couple, la relation doit être équilibrée. Il ne doit pas y avoir de relation de dominant et de dominé. Que c'est l'homme qui est le macho. Quand il rentre, sa femme est à son service, sa femme ne parle pas en la présence de son mari, sa femme n'est là que pour exécuter les ordres et les désirs de son mari. Cette relation est une relation de dominant et de dominé. Ce n'est pas la relation qu'il y avait entre le prophète alayhi salatu wassalam et ses épouses vertueuses. Et donc, si nous partons sur ces bases, heureusement de nos jours, il n'y en a plus. De toute façon, les femmes ne se laissent plus faire, tant mieux. Si nous partons sur ces mauvaises bases, ben, on nous retrouve, comme on n'a pas fait, on n'a pas mis en pratique une des recettes du couple prophétique, ben, il n'y aura pas la baraka, la bénédiction qu'il y avait dans le couple prophétique. Donc le mari ne doit pas être sexiste ni macho,
Mais dans l'autre sens également, le mari ne doit pas être, comme on dit, ne doit pas être un mouton, ne doit pas être non plus au service complet de sa femme. Il faut que le mari respecte, aime, considère sa femme, tout en sachant quel est son rôle dans la maison. C'est lui qui porte le, allez, on va dire en un terme un peu plus élogieux, c'est lui qui porte le turban dans la maison, c'est lui qui prend les décisions, et la femme sera rassurée de voir que c'est son mari qui tient la baraque, permettez-moi l'expression. Parce que si on a en face de nous un mari qui ne fait qu'écouter sa femme, qui n'a aucune possibilité de prendre des initiatives ou des décisions, la femme se sentira larguée. Elle se sentira, elle vivra en freestyle. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une décision importante à prendre, elle sait qu'elle ne peut pas s'appuyer sur son mari. Parce que mon mari ne sait pas prendre de décision. Il n'y a pas cette force, ce caractère. Donc il y a une relation équilibrée. De l'autre côté, la femme également ne doit pas être ultra féministe. Je ne fais pas la vaisselle, je ne cuisine pas, je ne m'occupe pas de mes enfants, je suis une femme moderne, non plus, mais pas l'autre extrême non plus, une femme totalement effacée. Il faut plus avoir des femmes qui ne discutent plus avec le mari, qui obéissent bien sûr, mais qui effacent leur caractère complètement, à un tel point qu'elle n'ait plus de personnalité. Donc, par le respect du conjoint, le respect mutuel, chaque personnalité prendra de l'ampleur et ce sera un apport moral et psychologique qui donnera un couple solide qui pourra affronter les étapes de la vie. Et il est mieux qu'il y ait une fusion de caractère plutôt qu'il y ait un effacement d'une des deux personnalités ou pire encore, un affrontement permanent des caractères. On avait 4 points, on se limitera à 2. D'accord ? Deuxième point, vous savez, lorsque 2 personnes se marient, ce sont là 2 personnes qui sont issues de familles différentes et parfois même de cultures différentes. Et vous savez que nous avons tous des qualités et des défauts. D'accord ? Nous pouvons supporter notre prochain, en général c'est comme ça, qu'à partir du moment où il ne maille pas trop. D'accord ? Tant que les deux coins, tranquille. D'accord ? Mais quand il commence à mailler, c'est là que l'ennui. D'ailleurs, quand on va au Hajj, hein, quand on met des gens dans les mêmes chambres, c'est là qu'on a des frictions. Peut-être les deux fréquentes azotes, c'est des camarades depuis 20 ans dans la masjid, mais quand la madazot est dans la même chambre, à la il n'y a plus dans la tasse, la même chambre Hilton ou ailleurs, là il y a des problèmes. Oui, il est comme ça, il est comme ci. Il y a quand on a une vie avec proximité, une certaine proximité, c'est là qu'on se rend compte que le prochain, que l'autre a des défauts. Maintenant, que dire d'une relation de couple dans une même maison, sous un même toit, 2 personnes qui ne se connaissaient pas forcément avant, issues de 2 familles différentes, parfois issues de 2 cultures différentes, ils vont devoir mener une vie commune du jour au lendemain et, je ne dis pas se supporter parce que ce serait péjoratif, mais vivre ensemble 24 heures sur 24. Et que chacun amène ses qualités, ses défauts. Comment faire en sorte pour qu'on puisse accepter l'autre avec ses différences? Alors la solution c'est quoi? C'est tout d'abord lorsqu'il y a, on constate une différence de conception par rapport aux idées, une approche différente des choses, il faut toujours éviter de faire des critiques directes. C'est valable pour un nouveau couple, pour un ancien couple, quel que soit l'âge, ne jamais faire des critiques juste pour critiquer ou des critiques destructives. Toujours des paroles respectueuses, mais surtout constructives. Parce que si nous passons le clair de notre temps, et ça c'est souvent, on voit ça dans les couples qui ont dépassé 5 années de mariage, si du matin jusqu'au soir, on va veiller les défauts de notre conjoint, et qu'on l'exprime en plus, l'autre va répliquer. Il faut savoir que dans une relation de couple, ce n'est pas un affrontement. Il n'y a pas une victoire, le mari a eu la victoire sur sa femme, ou la femme a eu la victoire sur son mari tel jour, telle année. C'est une relation durable, d'amour. Donc, la première règle à respecter, c'est ne jamais faire de critiques directes quand on constate des différences dans la conception des choses. Deuxième point également, il ne faut pas se focaliser sur les défauts de son prochain. Comme l'a dit tout le monde a des défauts, d'accord? Il faut positiver. Voyez plutôt les qualités de notre conjoint. La femme, même si elle constate que son mari parfois est un peu coléreux, parfois il est fatigué, il ne donne pas beaucoup de temps à sa famille, elle doit se dire avant tout que mon mari il travaille du matin jusqu'au soir, transpire, il se fatigue, il amène de l'argent, le rosier halal dans la maison, ce qui me permet d'avoir un toit, d'avoir ce confort, d'avoir à manger, d'avoir des vêtements pour moi, pour mes enfants. C'est-à-dire que la femme doit comprendre, doit voir avant tout qu'est-ce que son mari lui apporte en termes de faïda, plutôt que de cerner uniquement les défauts. Et pareil, si le mari constate des défauts chez sa femme, il doit se dire avant tout que moi, quand je rentre du travail, ma maison est propre. Mes enfants étaient occupés, ils ont fait leurs devoirs, il y a un repas, il y a une certaine quiétude, une stabilité qu'il y a dans la maison. Mais c'est ma femme qui apporte tout ça. Comme moi, je suis absent de 8h jusqu'à 18h. Et non pas se focaliser sur, oui, il y avait une petite tache sur la vaisselle, ou alors le couvert n'a pas été mis à temps, ou le repas n'était pas prêt, ou ce n'était pas ce que je voulais, etc., etc. Donc, positiver et voir plutôt les qualités que les défauts. Un dernier point, il est important, il est extrêmement important que dans la vie de tous les jours, pour qu'il y ait un amour durable, parce que quand on vient de se marier, la première année de mariage est toujours idyllique. C'est la consécration du coup de foudre. Donc on va s'aimer comme des fous, d'accord? Mais plus les années passent, ben, les réalités ne sont plus les mêmes. Après 5 ou 6 années de mariage, la relation n'est plus pareille. On n'est plus forcément amoureux et attiré physiquement par la beauté de la femme. C'est plutôt une relation de routine parfois qui s'installe. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a donné également des recettes pour qu'il y ait un amour durable et stable par des moyens très simples à la portée de tout le monde et qui ne coûtent pas grand-chose. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude d'appeler sa femme, Aïcha, « Ya Aïch » ou « Ya Habibi »,« Ya Humaira », c'est-à-dire appeler sa femme par un petit nom, par un nom d'amour, un nom gâté, comme on pourrait dire, ma chérie, ma princesse, mon cœur ou autre chose. Vous savez plus que nous, que les moulissables, quels sont les mots d'amour, vous le savez mieux. C'est-à-dire que, à travers la manière de s'interpeller, la femme doit ressentir de l'amour. Ça, c'est extrêmement important. Tout cela, ce sont là des petites recettes qui permettent de casser la routine. Également, le prophète nous a appris que « Inna akmal al-mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaikum » Les meilleurs parmi les mu'mines, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et sachez que les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui agissent le mieux avec leurs femmes. Autre point extrêmement important, il faut apprendre à donner du temps à son prochain. Lorsque l'homme rentre à la maison après une journée de travail, il doit être capable de discuter avec sa femme à table. Le repas familial est un moment extrêmement important. Il n'y a pas besoin de regarder Super Nanny pour comprendre ça. Le repas familial, c'est un moment d'échange. Le mari doit être capable de demander à sa femme « Comment tu as passé ta journée ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ça a été les enfants, ils ont bien travaillé à l'école, leurs devoirs, est-ce qu'il y a eu des notes dans leur carnet de liaison ?» C'est-à-dire communiquer, que la femme, elle se sente sollicitée. Je ne suis pas une esclave, je ne suis pas employé de la race, l'ex-race, que je suis là juste pour travailler, je fais la vaisselle, le ménage, je cuisine, et quand il rentre, il fait que le constat, il mange de ce que j'ai préparé, il utilise la vaisselle, et il va dormir de le lit que j'ai préparé, etc., etc. Mais moi, c'est comme si que je suis une servante. Donner du temps, discuter avec sa femme. Et dans l'autre sens également, vous transmettrez à vos futurs, la femme doit être capable également de communiquer avec son mari, de parler. Qu'est-ce que tu as fait de la journée? Ça a été au boulot? Qu'est-ce que tu as fait? Comment, etc., etc. Qu'il y ait un échange permanent entre le mari et la femme. Autre point extrêmement important, il y a des gestes extrêmement simples que l'Occident ne nous a pas enseignés. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a expliqué « Luqmatun tadra'aha fi zawjika sadaqa » Le mari, au moment du repas, met une bouchée de nourriture dans la bouche de sa femme. C'est une sadaqa. Et c'est une preuve d'amour exceptionnel. Je vous assure, Georges Clooney ne l'a jamais fait avec une de ses conjointes dans les films. Ce n'est pas la conception de l'amour de l'Occident. Mais ce sont là des gestes sincères qui sortent du fond du cœur et qui sortent du berceau de la prophétie et qui garantissent une baraka, une entente sincère et durable dans le couple. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam rentrait chez lui, la première chose qu'il faisait, c'était quoi ? « Kana awwalu ma bada bihi as-siwak » Il faisait le siwak. Pourquoi ? Parce qu'il allait embrasser sa femme. Qui c'est qui le fait de nos jours ? J'ai un ami qui me disait « La première chose que je fais, j'espère qu'il n'est pas là, la première chose que je fais quand j'arrive chez moi, je me connecte. Je vais sur Facebook pour voir si mes amis, ils ont écrit des commentaires. Ils m'ont envoyé un message. C'est malheureux. Le prophète nous enseignait que la première chose à faire, quand il rentrait chez lui, c'est qu'il embrassait sa femme. Et Aïcha, radiallahu anha, elle disait que lorsque le prophète sallam allait à la masjid, il m'embrassait et il allait à la masjid. Regardez, ce sont là des petits gestes simples. Il n'y a pas besoin d'acheter des cadeaux tous les jours, d'aller se ruiner, surtout en période de crise. Un bisou, en entrant, en sortant, des mots doux, cela garantit un équilibre dans le couple et un amour, dans le couple, pardon, et un amour durable. Alors, il y avait d'autres points, mais vous voulez vous marier, je vous comprends. D'accord ? Un couple, on peut mettre ça pour demain aussi. Non. Un couple doit être capable de faire concession. Comme on a dit tout à l'heure, ne pas se focaliser sur les défauts. Vous savez, dans le couple, ce n'est pas un match. Ce n'est pas moi qui ai gagné. Non, c'est une relation qui doit durer. Donc, passer sur les défauts de notre prochain, ça on l'a déjà développé. Maintenant, le fait de faire concession ne veut pas dire accepter en permanence des frustrations parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'amour dans le couple. Si à chaque fois le mari fait des choses, si à chaque fois la femme, elle désobéit ou elle fait des choses qui déplaisent à son mari, au bout de 10 ans, le mari ne pourra plus supporter. Un couple doit être capable également de discuter des problèmes, discuter des dysfonctionnements qu'il y a sous le toit familial, mais toujours dans le respect et dans la considération de l'autre. Ce sont là, mes chers frères, quelques petits conseils qui ont été tirés dans des livres qui traitent du mariage. Il y en a beaucoup d'autres, mais nous nous limiterons à cela pour qu'on comprenne que le mariage, ce n'est pas que la fête, c'est une construction que le mari et la femme, ils ont chacun un quota de pierres. Et chacun posera une pierre jour après l'autre jusqu'à ce que cet édifice soit magnifique, soit admirable et que de ce mariage, de ce lien, il y aura, Inch'Allah, des enfants. Des enfants qui connaîtront une stabilité. Il n'y a rien de pire que des enfants qui sont élevés par un couple monoparental. Un enfant dont les parents sont divorcés est un enfant qui gardera un profond déséquilibre psychologique parce qu'il n'a pas connu l'équilibre qu'il y a entre le papa et la maman présents en même temps. Donc un couple qui dure dans la muhabba, c'est un couple qui, Inch'Allah, garantira une éducation stable et correcte à ses enfants. Ce qui veut dire que vous allez donner vie à des gens qui auront la foi de leur cœur et une vie, un équilibre psychologique. Ce seront là des mu'mines et des citoyens, des maillons dans la chaîne de notre société. Alors nous souhaitons beaucoup de bonheur à cette union, à ce futur couple. Il faut savoir également qu'au-delà de l'aspect festif, il faut savoir que le jour de Qiyamah, deux hadiths, le prophète nous explique que le jour de Qiyamah, la première chose qui sera demandée à une femme le jour de la résurrection, c'est à propos de ses prières. « An salatiha, thumma an ba'liha, kayfa fa'alat ilay » La deuxième chose à propos de son mari, comment est-ce qu'elle a agi envers son mari. Dans un autre hadith, une autre version de Al-Bazzar, il est dit que un homme qui a abandonné sa femme se verra réprimandé le jour de la résurrection par Allah. Il dit que wazawj wazawja, le hadith, wa yuqalu lizawj khatabti fulana ma'a khitabi fazawajtukaha wa taraktahum. Allah Ta'ala fera des reproches à ce mari qui ne s'est pas acquitté de son devoir par rapport à sa femme, qui les a abandonnés. Allah Ta'ala dira que tu as souhaité te marier avec telle personne et ensuite tu les as abandonnés. Donc on comprenne bien que le mariage est également une responsabilité que nous prenons devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah mette beaucoup de bénédictions, de baraka dans cette union et que de cette union naissent beaucoup d'enfants, des enfants, pas beaucoup peut-être, c'est vous qui décidez, mais en tout cas des enfants pieux, et qu'Allah Ta'ala donne la possibilité à ceux et à celles qui sont en âge de se marier, qui ont l'intention de se marier, mais qui ne trouvent pas encore la chaussure qui va à leurs pieds, mais qui le trouvent très facilement, et qu'Allah mette baraka dans tous les couples, surtout les couples qui sont en difficulté, qu'Allah nous protège du talaq. Ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.